BW. Droits et libertés.
Aujourd'hui, pas de longue introduction, je vous propose la première partie d'un entretien en deux volets avec Abdul Salam Bello, chercheur nigérien, invité au Centre africain de l'Atlantic Council à Washington. Selon lui, la pandémie pourrait être l'occasion de repenser totalement les systèmes de protection sociale en Afrique, voire même de se poser de grandes questions sur l'avenir du continent pour le redéfinir tel que l'envisagent les Africains eux-mêmes. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous.
Donc, je m'appelle Abdul Salam Bello, je suis de nationalité nigérienne. Je suis chercheur invité au think tank Atlantic Council, basé à Washington.
Nous nous retrouvons dans un café, ce qui va peut-être expliquer aussi certaines nuisances sonores en arrière-fond. C'est une première. Coronavirus étant, on ne peut pas se rencontrer en studio comme on veut. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Vous avez publié récemment sur notre site internet une tribune pour une meilleure santé en Afrique. Alors, selon vous, le coronavirus et surtout la crise sanitaire que le virus a entraîné aussi en Afrique et de plus en plus en Afrique, qui a été touchée un petit peu après les autres continents, qu'est-ce que ça a mis en lumière en termes de dysfonctionnement? Est-ce que vous avez été surpris par les affres du coronavirus en Afrique, en d'autres termes? Ou est-ce que, bien que le virus n'ait pas été attendu, finalement, ses effets, eux, auraient pu être prévus?
Je voulais surtout poser une réflexion sur l'état de la santé en Afrique, au-delà même du coronavirus. De mon point de vue, ce qui ressort du coronavirus, c'est vraiment un marqueur ou un révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements, comme vous l'avez mentionné, ou bien un certain nombre de faiblesses au niveau de la gestion des questions humaines, sociales, dans nombre de pays. Si on fait une comparaison, vous prenez les pays européens. La plupart ont mis en place ce qu'on appelle le lockdown. Donc, tout le monde a été
confiné.
Et ensuite, il y a quand même une chaîne de services logistiques qui a permis quand même aux personnes d'avoir accès aux produits de base, aux centres de commerce, etc. Et aussi, bien sûr, avoir accès au financement dans le cadre de leur travail de façon régulière, traditionnelle. Sans parler du fait qu'il y a aussi un package de sécurité sociale qui a permis, jusqu'à un certain point, bien sûr, d'adresser, de couvrir les questions liées à l'extrême pauvreté, au risque de basculement dans la pauvreté. La mise en place des réponses sur le continent africain, partant du principe aussi que les taux de pauvreté dans de nombreux pays font que vous avez des gens qui vivent avec moins $1 ou $2 par jour et qui ont besoin de sortir de leur domicile pour gagner leur vie. Et donc, ça pose la question, par exemple, de l'accès aux ressources, à la bancarisation, aux paiements électroniques, à la question de l'énergie, parce que c'est aussi des questions de stockage. Vous allez dans un supermarché ici, vous faites vos provisions, vous mettez ça dans un réfrigérateur. Beaucoup n'ont pas ces capacités-là. Donc, je dirais que ça a été surtout... la gestion a montré aussi le profond décalage sur les questions même de développement humain, mais aussi de développement économique, entre les régions et en particulier sur le continent africain. Par définition même, le secteur informel est difficile à mesurer avec précision. C'est aussi autant de personnes qui n'ont pas accès à quelques couvertures.
Ne serait-ce qu'aux soins de base, sociales, même en temps normal.
Oui, donc du coup, il y a la question de la formation, il y a la question de l'accès à l'information, il y a la question même de la technologie, parce que tout cela aussi touche aux questions, je dirais, fiscales. Ensuite, il faut voir, bien entendu, quel est le niveau, la qualité, le degré de fiscalité. Certains sont éligibles, d'autres non. Il ne s'agit pas par la fiscalité d'accroître encore une inégalité, mais d'arriver aussi à élargir, je dirais, ce qu'on appelle les assiettes fiscales, afin de mobiliser plus de ressources sur le plan domestique, afin de financer aussi les questions de développement humain, l'éducation, la santé, et de mettre en place aussi des filets qui peuvent être des filets sociaux.
Mais alors la fiscalisation, l'implantation et l'introduction de nouveaux impôts ou d'un nouveau système d'impôts, c'est une tâche titanesque. Pour qu'un État arrive à introduire des nouveaux impôts et ensuite à réellement les récolter, puisqu'on peut les mettre en place sans que les gens ne voient ni la nécessité de les payer, ni qu'on ait les moyens de contrôler qu'ils le fassent vraiment. Donc comment est-ce que ça peut se mettre en place, à quelle échéance ?
On est encore dans le Covid, donc je pense que les questions de planification en ce moment sont devenues un peu plus difficiles. Mais je dirais que bon, la question de la fiscalité découle aussi d'un contrat entre les individus et et l'État. Je veux dire,
c'est un contrat social. Bien sûr. Il faut adhérer aussi à ce que l'État propose en tant que citoyen et être assuré qu'on a une contrepartie aussi quand on paye une obole pour le bien commun. Quoi.
Absolument. Donc ça doit aller dans les deux sens. Je dirais qu'il faut aussi renforcer les mécanismes de gouvernance, de transparence dans la gestion, l'allocation des ressources, renforcer les mécanismes institutionnels, le système parlementaire par exemple, ou même les systèmes dans certains pays où la société civile aussi a un regard sur les questions de reddition des comptes.
Et l'impôt, ça ne touche pas seulement l'impôt sur le revenu et donc les citoyens, évidemment. Il y a tout aussi la taxation de toutes les entreprises, nationales ou étrangères d'ailleurs, qui font des profits, qui ont des activités dans les pays. Ça aussi, j'imagine qu'il y a de la marge et de l'argent à récolter.
Oui, sur ces questions-là, effectivement, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales qui, dans leurs négociations avec les pays, bénéficient d'exemptions fiscales sur certaines périodes et qui sont souvent autant de manques à gagner pour le budget national. Ça découle aussi de la... une forme de capacité à renforcer au niveau des États dans la manière dont ils négocient les contrats. Vous avez eu beaucoup de situations où vous avez des compagnies qui viennent et qui, parce qu'il y a des failles dans le dispositif, dans le contrat qui est négocié, qui peuvent commettre des actions qui ne sont pas très propres, si on peut dire. Du coup, certains pays se retrouvent malheureusement pieds et poings liés avec des compagnies qui sont dans leur pays et qui, du coup, parfois même doivent passer sur des tribunaux où ils vont passer beaucoup de temps justement avec des avocats du coup qui vont devoir payer très cher sur une durée très longue pour rentrer, je dirais, dans leur bon droit.
Mais là, on parle aussi d'acteurs politiques. Or, on voit que même à chaque élection, dans la plupart des pays, il y a des problèmes. C'est-à-dire que même le contrat démocratique ne va pas forcément de soi.
C'est vrai que c'est jusque-là, d'ailleurs, on voit malheureusement dans beaucoup de pays, les périodes qui sont des périodes électorales sont des périodes de grande tension. J'ai vu dans beaucoup de pays désormais qui développent des stratégies qui s'inscrivent vraiment sur un temps long, avec une vision... En ce moment, les visions, c'est autour de 2035.
Et l'agenda de l'Union africaine, c'est même 2063.
Oui. Donc déjà, il y a un horizon qui est défini. Ça permet, je dirais déjà, d'harmoniser la réflexion. Il y a des fondamentaux sur lesquels on ne devrait pas transiger. Par exemple, les questions d'éducation, les questions de santé. En fait, les questions de base, je dirais, de développement humain.
Est-ce qu'il peut y avoir une solution africaine, un modèle africain qui se détacherait des modèles occidentaux qui prévalent encore dans la plupart des États, ne serait-ce que parce que les constitutions sont inspirées de celles de l'ancien colonisateur ?
Toutes les visions africaines ou africanistes, panafricanistes, visent justement à avoir véritablement un modèle de développement qui est un modèle de développement africain. On regarde même de l'héritage des pères des indépendances, on regarde des héritages des panafricains. Je ne pense pas que les modèles, entre guillemets, copiés, collés, sont des modèles qui fonctionnent ou qui devraient fonctionner. Il est important aussi d'avoir aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, des questions de contenu, de culture locale.
On entend beaucoup, y compris parmi nos auditeurs, évidemment, nos internautes, de gens qui remettent en question les systèmes de valeurs qu'ils estiment qu'on leur impose de l'extérieur et aspirent donc à des valeurs plus africaines et plus en harmonie avec leur culture d'origine. Cependant, on voit souvent des jeunes qui aspirent aussi à avoir des grosses voitures, qui aspirent aussi à avoir des grandes maisons et avec une piscine, qui regardent les clips de hip-hoppers américains et qui véhiculent tout un imaginaire, tout un idéal ultra-consumériste, ultra-capitaliste, qui est un peu en porte-à-faux avec cette idée d'inventer un autre modèle propre à l'Afrique.
Pour moi, ce n'est pas des questions qui sont nécessairement rédhibitoires, et ce n'est pas mutuellement exclusif. Ce que je vois plutôt, c'est que dans les pays aussi, vous avez de plus en plus de médias locaux qui proposent aussi des contenus locaux. On parlait du Niger ou d'autres pays, mais oui, vous avez des rappeurs aussi et qui font du hip-hop, qui font d'autres types de musique, mais ils ne parlent pas de la banlieue de Los Angeles. Ils parlent de leur réalité locale.
Merci à Abdoul Salam Bello, chercheur invité au Centre africain de l'Atlantic Council à Washington. Rendez-vous la semaine prochaine pour le second volet de notre entretien. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français. À la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. Yalla bourbi kenna la